franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Voilà, Gilles Boeuf, hasard de l'actualité, un sujet que vous connaissez bien, le plus grand herbier numérique du monde, hein, le seul. Il est français, il contient plus de 6 millions d'entrées, à l'époque où vous étiez justement président du muséum, avec les équipes justement du MNHN qui publient dans la revue Scientific Data le résultat d'un travail colossal, plusieurs dizaines d'années de restauration et numérisation, un patrimoine botanique donc, et un outil de travail pour les chercheurs du monde entier. On en parle donc avec vous, Gwenaëlle Lebras, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gestionnaire de base de données pour le muséum, premier auteur de ses travaux et dans ce studio, comme tous les lundis avec nous, Hervé Kem. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Partenaire du magazine reporter.net, le quotidien de l'écologie. Hervé, 300 ans de récolte, 6 millions de spécimens, donc ça c'est un bon outil pour faire de l'écologie, hein?
Et oui, tout à fait, parce que pour bien protéger la biodiversité, eh bien, il faut la connaître. Alors, il y a trois grands moyens de connaître l'aventure des plantes. L'idéal, c'est la banque de graines vivantes, mais on ne peut pas toujours le faire parce que les graines meurent. Certaines d'entre elles, en tout cas, plus futuriste, il y a la banque de gènes qui existe. Et puis, il y a sans doute le plus important, la méthode que nous avons peut-être appris par notre institutrice, instituteur ou le grand-père dans le temps, c'est aller dans les champs, ramasser des fleurs, des feuilles et les mettre entre deux feuilles de papier. Ça s'appelle un herbier et c'est une méthode tout à fait scientifique, tout à fait moderne, qui a été initiée par les naturalistes au XVIe, XVIIe siècle et puis qui a conduit à la constitution de ces grands herbiers. Alors celui du muséum dont on va beaucoup parler. Aussi, il y a d'autres herbiers en France, notamment dans les grandes universités, à Lyon, à Clermont-Ferrand, qui font du très bon boulot. À quoi ça sert? Eh bien, par exemple, avoir l'histoire des plantes va nous permettre de savoir comment ça évolue par rapport au climat. Par exemple, en Auvergne, on s'est rendu compte que certaines plantes qui étaient au bas des puits, au bas des montagnes, maintenant ne se trouvent plus qu'en haut. Et c'est un signe du changement climatique.
Alors Gwenaëlle Lebras, revenons au tout début. Pourquoi depuis des centaines d'années, les botanistes s'amusent à coller des plantes sur des feuilles de papier? Quel est le but au début?
Au début, ça permet de garder une trace d'un spécimen nettement mieux qu'un dessin. On a l'avantage des plantes par rapport aux animaux, c'est que ça se conserve très bien sec. Et donc faire un herbier, les dessécher, nous permet de conserver une trace et de pouvoir revenir sur le matériel autant de fois qu'on en a besoin.
Alors là, 6 millions de planches, ça prend quoi comme place?
Un bâtiment, un grand bâtiment, et encore, il n'est pas assez grand, donc on a dû installer des armoires sur roulettes pour les tasser.
Donc maintenant, c'est 6 millions de photos, mais à chaque photo, il faut associer des informations. Quelles sont les informations utiles pour faire de la recherche quand on fait de la numérisation de banques comme celle-là?
Alors, de toute façon, pour étudier un herbier ou tout autre spécimen d'histoire naturelle, il faut avant tout qu'on ait les informations sur le lieu de récolte et la date de récolte. C'est les informations de base, c'est ce que nous amène l'herbier, en fait, c'est de pouvoir retrouver que, tiens, en plein milieu du 19e siècle, telle plante a été récoltée à tel endroit, et aujourd'hui, elle est plus présente, par exemple.
Les herbiers, physiquement, aujourd'hui, sont encore utilisés par les chercheurs? Ils vont dans les collections regarder les planches?
Oui, la base de données ne remplace en aucun cas les herbiers physiques. La base de données permet de répertorier les collections, qui c'est le meilleur outil pour savoir où les retrouver dans la collection. Mais le matériel de base pour les chercheurs, ça reste l'herbier physique.
Alors là, vous avez fait cette numérisation, vous avez toutes les données qui sont accessibles pour la recherche. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça sous forme numérique?
Alors, on peut croiser plein d'informations qui sont difficilement accessibles autrement. La première fonctionnalité de la base de données, c'est de répertorier justement les spécimens qu'on a en collection et ce travail nous a permis de retrouver des spécimens qui étaient tombés dans l'oubli, on va dire. La base de données nous permet d'envisager un certain nombre de recherches sur la morphologie des plantes et puis sur l'historique aussi des populations de plantes.
Ouais, Gwenaëlle Lebras, comment vous avez procédé pour numériser 6 millions de pages donc de données de ces plantes? Et d'images donc, hein.
Quand on dit 6 millions, c'est pas que l'article en question ne parlait que de l'herbier des plantes vasculaires. L'herbier du Muséum de Paris possède 8 millions de spécimens. Ouais. Mais on les a pas tous numérisés, parce que c'était pas toutes numérisables. On a commencé par voir petit, hein, ça a commencé dans le milieu des années 90. D'abord avec des appareils photo, avec la technologie accessibles à l'époque. Puis avec des scanners haute définition à partir de la première décennie du XXIe siècle. Et ce retour d'expérience nous a permis de lancer un projet de grande ampleur avec des scanners automatisés c'était de la numérisation industrielle, quoi.
Donc il y avait une reconnaissance de la part de machines, en fait, qui faisaient le boulot à la place des humains.
Il y avait quand même des personnes qui étaient chargées de manipuler les machines. Les machines ne travaillaient pas toutes seules.
Ouais.
Mais le gros du travail était robotisé pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. On fait pas 6 millions de scanners en un claquement de doigts.
On imagine, ouais. Hervé.
Je crois que dans le gigantesque herbier du muséum, il y a en fait beaucoup de plantes exotiques d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et relativement peu de France. Est-ce que c'est exact? Et est-ce qu'il y a encore des découvertes à faire, notamment en France, par exemple?
Ah oui, il y a encore des découvertes à faire. On est sans doute l'un des herbiers historiques de France. On est un des premiers herbiers à avoir été créé en France. Donc on a, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de spécimens qui ont été récoltés en France. Hein, c'est quasiment 1 million sur les plantes vasculaires. Je parle que des plantes vasculaires. On a donc c'est 1/6 de la collection à peu près. C'est des spécimens de France.
Et les autres sont donc d'autres pays en fait.
Voilà. Lointains. Mais on a l'ensemble de la planète représentée. On a des plantes d'Antarctique. Enfin, on en a de partout, quoi.
Est-ce que l'herbier continue de s'enrichir? Est-ce que des planches nouvelles sont créées?
Oui, tous les ans, des chercheurs, des botanistes vont sur le terrain et ramènent des spécimens qui viennent enrichir les collections. Et des chercheurs d'autres instituts avec lesquels les botanistes du muséum travaillent continuent de nous envoyer des spécimens. Oui.
Gilles Boeuf, ce travail, il est indispensable justement pour la conservation aussi de la biodiversité.
Tout à fait, et surtout dynamique et historique. Hein. Comme on le disait tout à l'heure, le fait de savoir que telle plante était à tel endroit à telle époque, c'est super intéressant. Soit elle n'est plus là aujourd'hui, soit elle prolifère. Hein, on a des problèmes d'espèces qui sont envahissantes. Mm-hmm. La fougère règle en ce moment en Écosse, par exemple. Alors, je dirais que sur les acquisitions nouvelles, les grandes expéditions de la planète revisitée nous amènent effectivement des plantes nouvelles en permanence. On fait en fait tous les ans maintenant une visite dans un grand pays exotique perdu où on n'est pas trop allé. La Papouasie, par exemple, le sud de Madagascar, récemment des parties difficiles de la Nouvelle-Calédonie. Donc on ramène effectivement des plantes nouvelles. On continue à investiguer en France. Là, une remarque qui est intéressante, c'est qu'on est beaucoup aidé par les amateurs. Hein, il y a un groupe qui s'appelle Tela Botanica en France, qui est vraiment excellent et qui est le meilleur système aujourd'hui de mise en évidence de ce qu'est la cartographie des plantes en France. Et enfin, autre aspect intéressant, c'est que ça nous aide pour comprendre des problèmes de synonymes dans ces herbiers, malheureusement.
Qu'est-ce que vous appelez les synonymes des plantes?
La même plante a été décrite à des époques différentes sous des noms différents. Ça, c'est très difficile pour qu'on s'y retrouve. Et c'est pas du tout négligeable pour les plantes vasculaires dont on parle à l'instant.
Avec un peu les réagir.
Gilles Boeuf, vous avez commencé à l'évoquer, mais il y a un aspect de science participative dans cet herbier. Comment est-ce que les gens, vous, moi, enfin, ou ceux qui nous écoutent plus exactement, peuvent participer à cet herbier?
On va poser la question à Gwenaël Lebras.
Oui, il y a un site qui a été créé en parallèle de la numérisation de masse pour nous permettre de rajouter des informations. En fait, faut imaginer qu'on a introduit dans la base de données des images avec relativement peu d'informations. Mais évidemment, pour retrouver les spécimens, on a besoin d'informations complémentaires et on sollicite le grand public à travers le site qui s'appelle Les Herbonautes. Donc, ce qui est trouvable sur Internet assez facilement. Et qui nous permet d'enrichir en métadonnées nos collections.
Concrètement, ça veut dire que je dois aller déchiffrer l'écriture manuscrite des chercheurs d'il y a 100 et 200 ans?
Exactement.
Ok, c'est pas facile alors.
C'est exactement le principe. Mais c'est un travail qui est collectif. Les personnes qui interviennent sur les herbonautes discutent entre elles. On les pousse à le faire.
Ouais.
Et les gens qui ont un peu plus d'expérience sur le site aident souvent les nouveaux débutants. Puis ça vient assez vite en fait, hein, c'est des écritures principalement du 19e siècle et début 20e siècle.
De la belle science participative, voilà, pour maintenir le plus grand herbier du monde à son niveau, Gilles Boeuf.
Tout à fait, c'est extrêmement important. Les plantes sont évidemment un modèle tout à fait idéal. Ouais. En gros, en France, on connaît 7000 espèces de plantes aujourd'hui, dont 1000 simplement dans Paris. C'est pas négligeable.
Ah, c'est pas mal. Oui. Donc une belle biodiversité.
Tout à fait, elle revient.
Ouais. Les herbonautes.mnhn.fr, hein, Axel.
C'est exactement ça, merci.
Sur le le site de la Tête au Carré. Merci beaucoup. Et puis Hervé, on retrouve toutes tes infos sur reporter.net également.
Avec passion.
Merci beaucoup, Gwenaëlle Lebras.
Merci.
Bonne
à
journée
vous.
À vous. Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, justement, on fait de la localisation de plantes, mais également pour les planètes, parce que vous allez pouvoir participer à peut-être à la localisation de la 9e planète du système solaire. L'année dernière, des astronomes ont réalisé que les orbites de certains astres étaient inexplicablement altérées. Ils ont alors émis l'hypothèse que cela était dû à une planète encore inconnue. Alors, pour la retrouver justement, l'hypothétique astre, la NASA invite chacun à participer à cette recherche en analysant des images du télescope WISE, issues de plusieurs années d'observation. Les chercheurs ont besoin d'aide là aussi pour recenser les objets en mouvement, objets donc que vous pouvez traquer et signaler sur la plateforme collaborative backyardworlds.org. Les eurodéputés veulent un cadre réglementaire pour les robots. Le Parlement européen a voté la semaine dernière une résolution invitant la Commission européenne à rédiger des normes juridiques et éthiques pour encadrer l'usage des robots. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, la robotique médicale, industrielle et même militaire va prendre une place croissante dans nos sociétés. Dans cette optique, l'UE veut édicter ses normes avant de se voir imposer celles des autres. L'interféromètre Virgo, amélioré mais en panne, alors que le détecteur d'ondes gravitationnelles européen célèbre la fin de 50 travaux de mise en service, et bien Science révèle que justement sa mise en service pourrait, pourtant prévue pour le mois prochain, sera retardée de plusieurs mois. La faute à des problèmes sur des amortisseurs indispensables pour les mesures très précises de l'appareil.